Oui, nous écoutons Radio Canu. Mince alors, il est midi. Midi, ah non. Ah si, 12h01. Blabla Mix.
Blabla Mix.
Blabla Mix.
Blabla Mix.
Yeah, my neighbor. Your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? In times like this.
C'est Blabla Mix?
C'est Blabla Mix.
Qu'est-ce que la violence? Pas seulement celle des coups de poing ou des coups de couteau, des agressions physiques directes, mais aussi celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres, qui permet la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits. Qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions d'euros et des revalorisations du SMIC qui se comptent en centimes. Mobilisés à tous les instants et sur tous les fronts, les plus riches agissent en tenue de camouflage, costume, cravate et bonne manière sur le devant de la scène, exploitation sans vergogne des plus modestes comme règle d'or dans les coulisses. Cette violence sociale, relayée par la violence dans les esprits, tient les plus humbles en respect. Le respect de la puissance, du savoir, de l'élégance, de la culture, des relations entre gens du beau et du grand monde. L'accaparement d'une grande partie des richesses produites par le travail dans l'économie réelle est organisé dans les circuits mafieux de la finance gangrenée. Les riches sont les commanditaires et les bénéficiaires de cette violence, aux apparences savantes et impénétrables, qui confisquent les fruits du travail.
La violence des riches, les époux pincent.
Oi, oh, 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 blah blah words.
Bonjour Peggy.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui, je vais bien, merci.
Tout bien de quel pays?
Je viens de la Centrafrique, un pays qui se situe au centre de l'Afrique.
D'accord, tu parles quelle langue là-bas?
La langue nationale, c'est un pays francophone, la langue nationale ça s'appelle le Sango.
Sango,
oui,
c'est la première langue, c'est la langue maternelle.
Oui, la langue maternelle. Oui.
Deuxième langue, c'est quoi?
La langue nationale, c'est le français, comme c'est un pays francophone. Et la langue maternelle, maintenant, c'est le Sango, qui se parle dans tout le pays. Et en dehors de ça, il y a plusieurs ethnies qui parlent plusieurs langues aussi.
D'accord. Et est-ce que tu peux dire la fiche de ton pays?
Les chiffres. D'accord.
Chiffre.
Oui, je peux dire oui. Un, par exemple, ça veut dire Oko.
Comment?
Oko.
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 Est-ce que tu peux compter jusqu'à 10 d'un coup et ensuite on apprend?
D'accord. Oko, Ousse, Ota, Osho, Oku, Omené, Mbrambra, Miombe, Gumbaya, Balako.
C'est joli.
Oui, ben
à nous, aux auditeurs, chez vous, dans votre cuisine, vous êtes prêts?
Oko.
Oko. Oko.
Ousse.
Ousse. Ousse.
Ota.
Ota.
Ota. Osho.
Osho. Osho.
Oku.
Oku.
Omené.
Omené.
Mbrambra.
Mbrambra.
Miombe.
Miombe.
Gumbaya.
Gumbaya.
Balako.
Balako.
Donc, Bram Bram, c'est combien?
Bram Bram, c'est 7.
7.
Oui.
C'est comme Socho. C'est un rythme comme ça.
Socho, c'est quoi?
Song.
Comme une chanson.
Socho, oui.
Ah, oh, pardon. Une chanson, Socho, Bram Bram. Gumbaya.
Gumbaya, c'est 9.
Gumbaya.
Ah, et 10 alors?
10, c'est Balako.
Balako.
Balako. Comment dire ça?
4.
100.
100. 100, c'est balé ou c'est?
Balé ou c'est?
Oui.
Balé ou c'est?
Oui.
Balé ou c'est? Où est le balé ou c'est?
Blabla minute.
Blabla minute. Blabla
minute. Alors, on a déjà connu toi. Et. Tu as déjà fait la journaliste en Centrafrique?
Oui, oui, en Centrafrique, oui. Après mon bac, j'ai passé le concours pour entrer à l'université, à l'école de journalisme. Et j'ai fini avec une licence professionnelle en journalisme. Et dès la première année, j'ai commencé aussi à faire de stages dans les médias.
Dans les médias.
Oui, j'ai commencé dans une petite radio.
Petite radio.
Oui, une radio religieuse.
C'est comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé, c'est vraiment une radio religieuse. Il n'y a pas assez de journalistes dans cette radio. Et donc, dès ma première année, chaque année à l'université, on envoie les étudiants comme des étudiants stagiaires dans les médias de Bangui, la capitale de mon pays, bien sûr. Et donc, après le stage est fini, je devrais retourner, continuer les cours. Et donc, moi, j'avais vu qu'il n'y avait pas assez de journalistes dans cette radio. J'ai fait la demande pour leur venir en aide. Et puis, ma demande a été acceptée. Et j'ai commencé à faire le stage dans cette radio dès ma première année à l'école de journalisme à l'université. Et donc, voilà, j'ai continué avec eux pendant des années, oui.
Des années?
Oui, des années, oui.
Il y a la liberté d'expression de ton pays?
La liberté d'expression dans mon pays, je pourrais dire qu'il n'y en a pas à 100%. Parce que du point de vue politique, les journalistes sont souvent menacés par rapport à leur expression, par rapport à dire ce que le président fait de mal, dire ce qu'un ministre fait de mal. Le journaliste est souvent poursuivi et parfois mettre en prison même. Et donc la liberté d'expression, ça ne se passe pas comme...
Comme en France.
Oui, comme en France, comme on le souhaite. Et donc, voilà, il y a plusieurs journalistes qui ont été enfermés par rapport à leurs articles, par rapport à ce qu'ils ont dit sur le pouvoir en place.
D'accord. Et il y a la corruption
dans... Oui, la corruption, il y en a dans tous les domaines. Hein. Et puis, c'est loin vraiment d'être parti à la corruption dans tous les niveaux, sur le plan éducatif, à l'école par exemple, et à la corruption. Et je pense que ce qui est vraiment à la cause de ces corruptions, c'est le salaire. Tous ceux qui travaillent, les fonctionnaires, ils n'ont pas un bon salaire. Et donc, ils n'arrivent pas à subvenir de leurs besoins par rapport à ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Et parfois, même, il y a des arrêts de salaire. Et donc, ils sont obligés de racketter, je peux dire. Et puis, c'est dans tous les niveaux. À l'école, il y a des professeurs qui demandent de l'argent aux élèves. À l'université, des professeurs demandent de l'argent aux étudiants. Les policiers ou les douaniers qui sont sur la route, ils demandent aussi de l'argent à ceux qui contrôlent, même les taxis et les bus qui circulent dans la ville. Et pendant leur contrôle, ils demandent de l'argent. Même les papiers ne sont pas en règle, les conducteurs ne sont pas en règle. Ils demandent juste de l'argent et puis ils laissent passer le taxi, le bus. C'est ce qui se passe. Ouais. Dans les hôpitaux, encore, c'est pire. Ce sont les professionnels de santé qui vendent des médicaments à ceux qui sont malades.
Ça fait dans tous les secteurs.
Tous les secteurs, oui, comme j'ai dit, oui.
C'est-à-dire, à l'hôpital, quand on est malade, il faut acheter les médicaments?
D'abord, quand tu arrives à l'hôpital avec ta famille qui est malade, on te demande de sortir l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, ta famille va rester là, ils ne vont même pas le toucher. Et donc, il faut d'abord sortir de l'argent pour les motiver. Quand tu sors de l'argent, tu les paies, c'est là, à ce moment qu'ils vont bien s'occuper de ta famille. Et maintenant, quand ils te prescrivent une ordonnance, tu pars à la pharmacie pour acheter. On te dit, tu vas où? J'ai tous ces médicaments, donc il faut acheter chez moi. Et si tu dis non, c'est mieux d'acheter à la pharmacie, ils vont te dire, ok, achète à la pharmacie et puis tu vas prendre ta famille pour aller là-bas, c'est eux qui vont le soigner. Mais sinon, tu achètes chez moi parce que j'ai besoin de l'argent, je veux que mes enfants mangent à la maison. Et donc, c'est vraiment fréquent ces cas.
Et au gouvernement, est-ce qu'on gouverne en famille?
Le gouvernement, oui, chaque président qui vient, il fait nominer que les membres de sa famille, le ministre de tel et son cousin. Après, le dernier cas que j'avais vécu dans mon pays avant de partir, il y avait un président, il est président, il y a son fils qui est ministre, il y a son autre fils qui est directeur, ils sont plusieurs directeurs, et il y a même ses maîtresses qui sont des députés. Voilà, il y a ces cas-là, c'est vraiment plus fréquent dans mon pays. Ouais.
Retour dans une page de la violence des riches, des époux de Pinson.
Retour sur du vocabulaire. Alors, on ne peut pas comparer France et Centrafrique, mais le vocabulaire bouge en France. On ne dit plus exploitation, on dit flexibilité. Licenciement devient plan social, baisse de salaire, optimisation, confiscation des bénéfices de l'entreprise, versement des dividendes.
Versement des dividendes.
Fermeture de l'entreprise bénéficiaire, mondialisation libérale.
Fermeture.
Mondialisation libérale.
Ouvrier, opérateur de production. Femme de ménage, technicienne de surface. Éboueur, ripper. Et un ministre au chômage devient un avocat.
Retour en Centrafrique, Dipou.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des étrangers dans ton pays?
Oui, il y a plein d'étrangers dans mon pays. Hein. Il y en a plein. Mon pays, c'est un pays qui a traversé plusieurs crises militaro-politiques. Le pays a traversé des mutineries, des coups d'État. Et donc, pour le moment, il y a beaucoup des étrangers qui sont venus dans le cadre des organisations non gouvernementales. Plusieurs ONG se sont installées dans mon pays, plusieurs ONG françaises aussi. Et aussi, il y a la MINUSCA, qui est une mission internationale, donc des soldats des Nations Unies, qui est composée des gens de plusieurs nationalités. Il y a des nationalités de l'Afrique et de l'Europe. Il y a, par exemple...
Et du Bangladesh.
Oui, il y a plusieurs... des Bangladesh, des Afghans. Et voilà, il y en a plusieurs. Et même l'opération Sangaris, qui était constituée que des militaires français aussi, était là-bas dans mon pays. Donc, mon pays, c'est vraiment... Et puis, non seulement ça, la Centrafrique, c'est un pays qui est vraiment riche en sous-sol. Et puis, voilà. Et donc... Elle a une forêt dense et donc c'est un pays convoité. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
ça fait qu'il y a plusieurs étrangers sur le territoire.
Tu es déjà allé contre la militaire du Bangladesh?
Oui.
Ils se sentent pas comment ils te racontent? Non?
Ça va, ils sont là-bas, ouais, ils sont sympas, ils font leur ils font beaucoup de jardins. Ils font beaucoup de jardins, c'est ce qu'ils aiment. Et puis, dans le cadre de leur travail aussi, ils construisent des ponts. Ils construisent des écoles, certaines écoles qui sont détruites. Et donc, voilà, ils font beaucoup de choses, oui.
Et ils font le jardin pour leurs épices parce qu'ils cuisinent.
Oui, parce qu'ils cuisinent, ils aiment trop cuisiner les légumes, tout ça. Et donc, voilà, ils font beaucoup de jardins, rien que pour leur consommation.
Et quel est ton problème?
C'est vrai, ça, Peggy. Oui.
Quel autre problème?
Quel est ton problème dans ton pays?
Le problème dans mon pays...
Enfin, de toi, quoi. Pourquoi tu es partie?
D'accord, ok. Bon, c'est comme je disais au début, hein, c'est un pays qui a connu beaucoup de crises. Et donc, voilà, étant journaliste, comme j'avais dit tout à l'heure, dans le cadre de mon travail, oui, je suis journaliste et puis depuis 2013, fin 2013, début 2014, je travaillais dans une ONG qui est une ONG qui milite pour le droit de l'homme. Et donc, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire des déplacements dans les provinces et j'ai essayé d'écrire plusieurs articles sur les groupes armés, sur tout ce qui se passait dans le pays qui n'est pas bien, pour faire la lumière sur ça, afin de demander l'aide de la communauté internationale pour venir en aide à ceux qui souffrent. Et donc, tout a commencé ici. Par rapport à mes articles, j'ai commencé à être menacée par un groupe armé. Et donc, voilà, j'ai vu que ma vie était en danger, je me sentais menacée, je ne suis plus bien. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter le pays.
Tu es content en France maintenant?
En France, oui, ça va. J'écoute plus les cris des armes parce que chez moi, tous les soirs, on écoutait, ça tirait de quel côté, on ne savait pas. Et d'ailleurs, même chez moi, j'ai été victime de braquages à plusieurs reprises, de braquages des hommes armés dont je ne connaissais pas, mais je connaissais qu'ils faisaient partie de tel groupe armé. Et donc, voilà, tout ça. Depuis que je suis en France, j'écoute plus des armes, je dors tranquillement. Je me sens en sécurité et en paix. Voilà.
D'accord, tu dors tranquillement.
Oui.
C'est bien.
Eh bien, si vous voulez, place à la musique, justement, pour dormir ou se réveiller. Un homme, une guitare, une chanson. Caetano Veloso, c'est l'un des grands bossanovistes. Et Jean Gilbert, ou un autre grand musicien brésilien, dit de Caetano Veloso qu'il a ajouté une dimension intellectuelle à la musique brésilienne. C'est pas n'importe qui, alors. Il a fait de la prison, pour activités non gouvernementales au Brésil en 68. Il était avec Gilberto Gil notamment. A-t-il composé Os Argonautas en cellule? On ne sait pas, mais il l'enregistre en 1969. Caetano Veloso, Os Argonautas, une sorte de chanson existentielle qui dit en gros qu'on n'a pas besoin de vivre, mais de naviguer. Mystérieux.
Tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
On descend des bateaux, on arrive sur les plages, on part dans les villes, car nous avons décidé de vivre la circulation pour tout le monde, la liberté pour tout le monde, et non pas pour une bande de privilégiés.
Bla bla bla, habité.
Une valise du possible. Mon index est allumé, sa lumière, c'est toi, chaque fois que ton absence m'a tiré vers l'obscurité. Les feuilles qui sont tombées et celles qui sont en attente de la chute, le vent les emportera, loin. Les oiseaux qui ont migré reviendront, les roses qu'on a coupées, de plus belles, fleuriront à leur place. Le vide que les oiseaux ont laissé par leur migration restera inoccupé. Le vide sera fidèle. Quand tu respires la rose par ton esprit, non par ton nez, tu es sûr d'être vivant. Chacun de nous a un balcon pour respirer la vie. N'essaie pas de réclamer ce balcon, mais fabrique-le. La guerre. Aucun timide ne se montre devant son œil. Les guerres ne sont pas l'essence. Les bonnes gens portent mon cœur avec le vent pour la continuité de ma chanson. Tout ce que nous voulons, c'est voir la vie se dresser comme un bambou. Je ne peux plus écrire. Un papillon venu de Syrie s'est posé sur ma main. Yazan Al-Obed.
Pour prétendre être un véritable écrivain, il faut que l'aiguisement de la plume soit celui d'un couteau. Il va falloir accomplir sa tâche avec finesse, enduire sa matière avec un sentiment extraordinaire et vrai. Visualiser avec une extrême simplicité l'écoulement de son sang sur le papier, sans le déchirer. L'écriture est ma seule bouée de sauvetage, me permettant de me libérer de la vie quotidienne et de son interminable administration. Sa simplicité et sa souffrance me réveillent maintes fois jusqu'à atteindre la voie lointaine de la source, les traits honnêtes d'un tableau presque parfait et d'une pureté inégalée. L'écriture exerce sa solitude avec la mienne quand je dis ne pas pouvoir écrire. Elle m'a beaucoup donné, surtout lors des pires moments, quand elle a réussi à les transformer en inspiration. Je voudrais écrire malgré le fait que la souffrance soit plus grande que le sens des dictionnaires. Je veux écrire parce qu'il y a des aspects de l'âme qui ne ternissent jamais.
Jamais.
Parce que le soleil de mon petit village persiste à se lever dans mon cœur.
Le lever de soleil dans mon cœur.
Nadette, bonjour.
Bonjour.
Mais qu'est-ce que c'est que ces textes que tu as dans ta besace? D'où viennent-ils?
Alors, ils viennent de partout, mais ils viennent surtout des amis de JRS Paris, du service jésuite des réfugiés à Paris, qui ont écrit un journal, enfin plusieurs numéros. Ils éditent un journal qui s'appelle « Ensemble, tout est possible ». Et dans chaque numéro, ils en sont au quatrième, il y a des poèmes.
Alors celui que je viens de lire, c'était celui de Yazan Al-Obeid de Reims. Il a été écrit en 2016, en décembre 2016. Où est-ce que nous on peut trouver ce journal? Où est-il?
Alors je pense qu'on peut le trouver sur Internet en allant sur le site du JRS. Voilà, et Yazan Al-Obeid est syrien.
Et alors ces personnes, qui sont-ils?
Alors ce sont des gens qui sont arrivés en France comme demandeurs d'asile, qui pour la plupart maintenant sont réfugiés, mais pas tous. Il y en a encore qui sont demandeurs d'asile et qui attendent leur réponse, et qui participent à Welcome Jeunes. Donc Welcome Jeunes, c'est le regroupement de tous les jeunes de l'étranger et des jeunes français qui, chaque semaine et presque chaque jour, ont des activités ensemble. Alors ça va de la cuisine, la couture, le yoga, la poésie, le journal, les cours de français, etc., etc., les soirées, les sorties, voilà.
Et Welcome Vieux, ça n'existe pas?
Pas encore, pas encore. Mais je veux bien créer Welcome Senior.
Et comment vont-ils alors à Paris? Parce qu'on voit aussi passer beaucoup d'informations sur des personnes qui ne trouvent pas de quoi se loger. On met des pierres pour les empêcher de planter leur tente dans les petits squares parisiens. Dans quel état d'esprit vont les demandeurs d'asile et réfugiés que vous apercevez à JRS Welcome Jeunes à Paris?
Alors, à JRS, on ne les aperçoit pas, on les accueille et on vit avec eux pratiquement comme à Lyon, d'ailleurs à JRS Lyon. C'est-à-dire que ça devient petit à petit des vrais amis et on peut vivre des choses ensemble. Comment vont-ils? Ils vont comme des personnes qui attendent. Je ne sais pas si vous avez déjà attendu, on a tous fait une petite expérience d'attente dans notre vie. Et quand on attend des mois, des semaines, des jours, indéfiniment une réponse pour savoir si on va être accepté par la France ou pas, c'est très, très, très usant. Et donc, Welcome Jeunes et le JRS essaient de pallier à cette usure qui va exister de toute façon, mais qui sera peut-être plus facile à porter quand on est ensemble.
Et l'un des recours de survie, c'est la poésie.
Nous sommes frères. Quand la nuit calme et sombre laisse présager une tempête, quand les hurlements du vent rugissent autour de moi, donne-moi ta main, tends-la-moi, et je te donnerai ma chaleur.
Tends-la-moi.
Stop, stop, ça suffit. Le bruit des armes.
Je te trouve, je vais te réchauffer, mon ami. Parce que nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes des âmes, nous sommes des frères. Nous sommes les minces feuilles d'un arbre solitaire. Nous sommes différentes musiques de la mélodie du bonheur.
Toi, soldat, l'héros.
Nous sommes les couleurs de l'aurore ensoleillée. Nous sommes les ombres des lueurs de soir.
Nous sommes les ombres.
Nous sommes les tempêtes sur la mer et les larmes de la pluie. Nous sommes les étoiles du ciel et le murmure de la lune. Nous sommes les fantômes de la lumière qui dansent en pénétrant dans le coucher du soleil. Nous sommes le souffle de la terre qui est fatiguée. Nous sommes les hommes et les femmes. Nous sommes l'écho, la douleur et l'avidité de la guerre.
Oh mon Dieu, ce monde, comme il est étranger et fou.
Nous sommes cette lumière qui efface le malheur. Nous sommes le soleil éclatant. Nous sommes la bonté. Nous sommes les perles de la vie. Nous sommes la vie éternelle. Elena Golodnik.
Nos enfants qui meurent de faim. Ce sont des enfants de chair et de sang.
Tant qu'il y a de coquelicots, il faut vivre. La vie n'est pas vide. Il y a la gentillesse, il y a la pomme, il y a la foi.
La foi.
Oui, tant qu'il y a des coquelicots, il faut vivre.
Coquelicots.
Un jour, je viendrai et j'apporterai un message.
Message.
Je démolirai tous les murs, je noierai mes yeux avec le soleil.
Soleil.
Le cœur avec l'amour, l'ombre avec l'eau, les branches avec le vent.
Les branches.
J'arroserai des pots au pied de chaque fenêtre. Je lirai un poème.
Un poème.
Je ferai la paix.
La paix.
Je présenterai les gens les uns aux autres. Marcherai. J'aimerai. Sorab Sepiri, Iran.
Qui?
Sorab Sepiri, Iran.
Dipou.
Oui. Un stylo est très petit en taillon. Mais
un stylo est très petit en taille.
Mais c'est un instrument très puissant.
Mais c'est un instrument très puissant.
Grâce à un minuscule stylo, nous pouvons connaître des choses depuis des milliers d'années.
Nous pouvons connaître des choses depuis des milliards d'années.
Grâce à un minuscule stylo, nous pouvons partager avec le monde entier. Nous pouvons mieux comprendre les choses. Gardez tous les événements.
Gardez tous les événements.
Un stylo peut ne pas être cher, mais il facilite beaucoup notre vie. Il est plein de sens. Il est très lumineux.
Gom Tivet. Vous connaissez Gom Tivet? Tu connais Gom Tivet, Nadette?
Non.
Alors toi, parfois, tu es donc de Welcome à Lyon et tu vas à Paris. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Vous échangez des services?
Non, il n'y a pas de marchandage entre nous, ni de marchandise. Moi, je fais partie du staff, c'est-à-dire d'une des équipes de JRS Paris, et je fais aussi partie du conseil d'administration, mais bon. Voilà, ce qui me permet d'être bien au courant de tout ce qui se passe.
Merci en tout cas de nous avoir apporté ces poèmes. Tu vas boucler la boucle avec une poésie. Je voudrais juste encore entendre la voix de Dan qui vient de nous rejoindre pour la première fois. Bonjour Dan.
Bonjour.
Tu viens d'où ?
Au Kosovo.
Kosovo, ça va bien le Kosovo ?
Oui.
Et puis il fait coussi-coussa avec la main.
Oui.
Dan, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase de ton poème avec le nom de l'auteur ? Bien près du micro pour qu'on entende tes graves qui tintinabulent dans l'exploitation céleste.
Crois-tu, humaine, que tu as besoin de nom ?
That's it, Nadette.
C'est un poème de Nizar Kabani. Lorsqu'en silence j'admire ta beauté, face à cette beauté divine, je me tais. Nos mots d'amour ne font que la tuer, car les mots meurent une fois dit. Tous les mots des dictionnaires sont morts. Tous les mots des lettres sont morts. Je veux découvrir une forme d'amour. Pour t'aimer sans mots.
Sans mots.
Aimer sans mots.
Aimer sans mots.
Aimer sans mots.
Aimer sans mots, mais avec Blabla Mix et de la musique.
Si les fraudes sociales sont estimées à 20 milliards d'euros, les allocataires fraudeurs en présentent seulement 1%, soit 200 millions, d'après la dernière étude de la mission d'évaluation des comptes de la Sécurité sociale. En effet, 80% de cette fraude sont liées aux cotisations patronales, 16 milliards, que les employeurs ne payent pas parce qu'ils ont recours au travail dissimulé. La guerre idéologique contre les travailleurs et les personnes les plus démunies ne cesse de les stigmatiser comme assoiffés d'assistanat. Elle porte ses fruits d'une manière inattendue, puisque ce sont chaque année en France 4 milliards d'euros dus au titre des prestations qui ne sont pas réclamés par leurs bénéficiaires. L'association du pauvre et du fraudeur est bien présente, y compris dans les milieux populaires, ce qui peut conduire à des dénonciations. Un mécanicien auto travaillant au noir le dimanche pour pouvoir payer les études de ses filles dans les Ardennes sinistrées a été dénoncé par sa voisine.
Juste Anne, ça c'est un poème qui nous vient du libéralisme, qu'on peut retrouver dans La violence des riches.
Oui, de la critique du libéralisme de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui sont deux sociologues.
La música del palmar, escucha dulce amor mío, la música del palmar. Mira las casas volar sobre el espejo del río. Mira las casas volar sobre el espejo del río. Garcero del Carrizal, garcero del Carrizal, réstame tu señorío. Garcero del Carrizal, garcero del Carrizal, réstame tu señorío. De lo que estoy recordando, el alma se me conmueve. De lo que estoy recordando, el alma se me conmueve. La garza viene llegando con su vuelo triste y leve. La garza viene llegando
con su vuelo triste y leve.
¡A la vuelta!
Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de nieve. Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de nieve. Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de nieve. Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de nieve.
Alors, merci Véronique pour choisir cette musique.
Ça t'a plu?
Pourquoi tu choisis? Tu comprends le brésilien?
Non, d'ailleurs là c'était de l'espagnol, mais ce n'est pas grave. Mais c'est la guitare qui m'a fait orienter, qui m'a fait choisir cette chanson. Le guitariste c'est Aldi Meola et il a fait en fait un disque où il matine. Il y a 12 chansons qui viennent du répertoire d'Amérique latine et 12 chansons qui viennent de Grèce. Et c'est un disque fabuleux. Et malheureusement je ne peux pas vous dire le titre parce que je l'ai acheté en Turquie et je ne parle pas le turc. Et à l'époque on pouvait aller en Turquie tranquillement. Et pourquoi la guitare? Eh bien parce que nous avons invité
la guitariste.
La guitariste. Et tu sais comment elle s'appelle cette guitariste, Dipou?
J'ai oublié, désolé.
Eh bien, elle va nous le dire. Bonjour.
Oui. Bonjour, Jane April, c'est mon nom de scène. Donc je fais un peu de guitare, mais c'est plus pour m'accompagner au chant.
Donc tu fais de la scène?
Je fais pas trop de scène. On va dire que je fais plus de la musique dans l'ombre.
Et à quoi ressemble cette musique de l'ombre? Est-ce que c'est une musique qui fait sonner tes ombres?
Un petit peu, peut-être, oui. C'est un moyen d'expression.
Oui, mais tu pourrais prendre ton stylo, comme on a entendu tout à l'heure.
C'est des émotions qu'on arrive à exprimer par la musique, qu'on n'arrive pas forcément à exprimer par les... par la parole, par le stylo, le dessin, etc.
Tu te souviens la première fois que tu t'es dit « Tiens, je vais faire de la musique pour m'exprimer »
J'étais ado, ça remonte un peu. J'ai commencé à faire de la musique avec un copain. Ça s'est fait comme ça.
Très bien. Avant de t'écouter et d'entendre la chanson qui s'appelle « Bipolaria ».
Oui.
Es-tu bipolaire?
Pas du tout.
Pas du tout.
Bipolaire, ça veut dire quoi?
C'est un état psychologique avec deux phases.
Ok.
Mais en tout cas, quand on est bipolaire, on est quand même vraiment. On a du mal à vivre. On est soit très, 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 mais alors très, très, très déprimé. Et après, on est complètement survolté. On achète beaucoup d'habits. On pratique le sexe à tout va. Et bon, c'est un petit peu difficile de suivre tout ça. Jane, je t'ai rencontrée lors d'une maraude, parfois. Donc, tu travailles toute la semaine et puis un dimanche par mois, tu donnes ton temps pour cuisiner et pour aller distribuer la nourriture à des gens qu'on appelle SDF. Oui. Il y en a 140 000 en France et 2 000 aux alentours de Lyon. Pourquoi tu fais ça?
C'est un moyen de... d'aider les autres, d'apporter sa patte dans une société qui n'est pas facile aujourd'hui.
Mais tu pourrais leur donner une pièce, tout simplement, un euro.
Non, parce que ça permet d'échanger aussi à ces moments-là avec eux. Pour moi, cuisiner, c'est passer du temps pour qu'ils aient de la bonne nourriture, un café et un contact, un sourire, et puis qu'ils puissent parler aussi, qu'ils puissent discuter dans ces moments-là. Je trouve que c'est important, le contact et l'échange, alors qu'une pièce, on la donne.
Alors du coup, tu connais les gens qui dorment dans les rues à Lyon. Est-ce que tu peux nous parler d'un couple, par exemple? Je sais qu'il y a une jeune femme qui avait une mauvaise toux l'autre jour, oui, et qui adore Stephen King,
oui,
et qui vit Fafa. En couple, en fait.
Oui, Fafa, elle... On a discuté de temps en temps elle est super intéressante. C'est très intéressant de discuter avec elle. Même son copain, il est vraiment cool. On a des bonnes discussions.
Vous parlez de quoi?
on parle de leur vie un peu, de comment ça se passe, quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils reviennent à cet endroit-là, parce que par rapport au magasin, etc., c'est compliqué.
Au magasin devant lesquels ils sont.
Oui.
Et ils se font pas jeter, en fait.
En fait, ils y sont que le week-end. Donc, ils repartent le lundi matin. Généralement, ils y dorment que le week-end.
Et après, ils vont où ?
Je sais pas trop. On n'a pas.
Mais est-ce que tu leur demandes pourquoi ils sont dans la rue ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ils sont en rupture ?
Non, j'ai pas discuté de ça avec eux. On s'est vu trop peu de fois, je pense. Je préfère d'abord établir un contact. Plutôt que de leur poser des questions embarrassantes directement.
Très bien. Non. Je te laisse empoigner ta guitare et pendant ce temps, je vais demander à Peggy s'il y a des gens dans les rues de Bangui. À quoi reconnaît-on les riches ? Quels sont les signes extérieurs de richesse ?
À Bangui, on reconnaît un riche par rapport à son accoutrement. Et quand on voit un riche comme ça, ça saute à l'œil nu. Et les riches, ils possèdent souvent des voitures. Par contre, les pauvres, ils sont là, ils marchent à pied avec des habits un peu délavés, tout ça. Par contre, un riche, il s'habille bien. Et toujours en voiture. Et puis, il ne fréquente pas aussi certains endroits. Ouais.
Et habillé bien, est-ce que tu peux décrire
Habillé bien, c'est pour les hommes par exemple, c'est se mettre dans un pantalon en tissu avec une belle chemise, parfois cravatée. Et chez les femmes, c'est de se mettre dans des ensembles. Quand on voit, on sait que ça coûte cher. Et puis voilà, parfois c'est des boubous, comme c'est l'Afrique. Voilà, on porte des boubous, des habits en pagne. Mm-hmm. Voilà.
Et selon les motifs, on sait s'ils sont plus ou moins riches.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors en France, il y a eu aussi une inversion de gros, maigre, maigre et gros. Anne.
Les caricaturistes dessinaient autrefois des capitalistes rondouillards, rebondis, comme les sacs de dollars de l'oncle Picsou. Au XIXe siècle, le patron était gras et repu, l'ouvrier maigre et affamé. Cette tradition se perd. Croquer le riche d'aujourd'hui sous les traits d'une personne bedonnante serait un contresens. L'élévation du niveau de vie se traduit par l'accès des familles les plus modestes à un régime alimentaire de plus en plus riche, tandis que les classes aisées prennent conscience de la nécessité de surveiller leur alimentation, diététique oblige. Et les corpulences se sont inversées, au point que l'obésité, actuel problème majeur de santé dans les pays développés, y menace en priorité les pauvres, certes à l'abri de la faim, mais dans l'impossibilité monétaire et culturelle de s'alimenter de manière à éviter ce mal moderne.
One, two, one, two, three.
Butterflies were flown away inside my soul. You took them away. I tried to change for fear something, but nothing's happened. I need a pill. I tried to live without your faces, your dark side, your selfish way. You put my head under the water, kept me breathing to feel stronger. Everything you touch, you freeze as sweet as blood. You pull me in your deep waters, and you change my mind in once again. Like the icy winter is white. For the war, I'm light. I see the most majestic fires, your faded finest flowers. You're rotten inside, you absorb all my energy. Connect yourself in my mind to control and weaken me. And you broke everything you touch. You freeze us.
Dipou, toi qui aimes les chansons romantiques, est-ce que ça t'a plu?
Oui.
Ouf, on a eu peur. Schumann fermait les yeux de plaisir. Et toi, Peggy?
Oui, moi aussi j'aime bien, oui. J'aime bien, j'adore le rythme. La guitare, oui, et la voix qui chante aussi. Bien que je ne comprends pas ce que ça veut dire la musique.
Pareil, mais c'est comme Anne, peut-être.
Oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé le grain de la voix en particulier, et puis la mélodie.
Mais oui, d'où te vient cette voix magnifique, Jen April?
J'ai jamais pris un seul cours de chant.
C'est naturel. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Parce qu'on ne parle pas anglais. Enfin, un peu, mais...
Elle raconte la maladie, en fait, sur une personne. Comment elle change les émotions d'une personne en une seconde, par exemple. Ce qu'elle peut empêcher de ressentir une personne ou non. Enfin, c'est des émotions très extrêmes, donc du coup, ça parle un peu de ça, de soit très mal, soit très bien, soit... Et en même temps, elle peut aussi évoquer une personne bipolaire sur quelqu'un, les sentiments qu'elle peut faire avoir à la personne, qu'elle peut faire ressentir à une autre personne par rapport à son comportement et à sa maladie.
Mmh. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Quelle sera ta prochaine chanson?
Je ne sais pas trop encore, je n'ai pas vraiment réfléchi, je viens juste de finir celle-là, donc...
Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous la livrer. Peut-être que ton travail peut t'inspirer également. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis animatrice dans un foyer de jeunes travailleurs.
Un foyer de jeunes travailleurs. À quoi ça ressemble un jeune travailleur?
Un jeune travailleur, ça dépend de son profil. Soit il travaille effectivement, il y en a qui ne travaillent pas, qui sont au RSA. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas forcément de garant, qui ne peuvent pas prendre d'appartement, qui sont un peu en difficulté d'insertion sociale.
Difficulté d'insertion sociale et aussi parce que l'accès au logement est extrêmement compliqué et difficile. Il faut être richissime maintenant, avoir des valises de billets.
Oui, et puis quand on n'est pas français, né en France, c'est encore plus compliqué.
C'est-à-dire ce qu'on appelle issu de l'immigration?
C'est un peu ça. Ou d'autres pays, on a quelques réfugiés et on a beaucoup de mineurs isolés qui sont majeurs et à ce moment-là, ils passent en foyer de jeunes travailleurs. Donc c'est avec la protection de l'enfance.
Et alors, tu es animatrice, donc qu'est-ce que tu animes? Quelles sont tes animations?
C'est l'espace collectif. Voilà, l'espace collectif, donc c'est que quand ils descendent de leur chambre, parce qu'ils ont des logements individuels, ils trouvent quelqu'un, boire un café, un thé, manger un bout, discuter, et puis s'ils ont besoin de parler à ce moment-là. Et puis c'est faire des activités, des sorties, qui leur coûtent moins cher ou qui ne leur coûtent pas, bowling, des sorties comme ça. Et c'est créer du lien entre eux, surtout, créer du lien.
Et ces jeunes travailleurs, tu disais, ils ne travaillent pas forcément. Mais il y en a qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils font comme travail?
Ça dépend. Ils sont souvent en alternance, en apprentissage. Il y en a beaucoup qui sont en bac pro, qui sont encore au lycée. C'est des métiers généralement, c'est des métiers manuels.
Les familles populaires ont quitté les arrondissements de l'Est et du Nord de Paris en raison de la désindustrialisation de la capitale. Celle-ci est spectaculaire. Les emplois dans l'industrie, selon l'INSEE, passent de 576 000 en 99 à 68 000 en 2011. Cet embourgeoisement des quartiers populaires de Paris, ce que l'on appelle le processus de gentrification, pour désigner l'appropriation de valeurs d'usage urbaine destinées aux familles ouvrières, par une population plutôt jeune, diplômée, travaillant dans des secteurs créatifs, les médias, la mode, le design, est d'autant plus violent que les bobos s'approprient également l'espace public, la rue, les trottoirs, les cafés et les commerces des quartiers où ils habitent, créant ainsi une convivialité urbaine que ne pourront plus jamais revivre les ouvriers partis dans les zones périphériques.
Alors finalement, ces jeunes travailleurs, ce sont un peu des gens des zones périphériques, puisque vous habitez également en foyer maintenant, Dipu, Shuman et Peggy, est-ce que vous pouvez nous décrire votre chambre? Est-ce que c'est bien, Dipu?
Oui, c'est bien, oui, c'est pas mal, oui.
Est-ce que tu peux raconter un peu?
Oui, comme c'est studio flat, comme ça.
Un studio?
Oui.
Un studio appartement?
Oui.
Tu as tout?
Oui.
Et puis, il y a aussi des espaces collectifs avec Jane qui joue de la guitare en robe de chambre.
Non, mais il y a quelqu'un qui travaille, il y a un bureau, mais il n'y a pas de guitariste comme ça.
Mais il y a un animateur social.
Ah oui, il y a un animateur, animatrice, oui, comme ça, oui.
Mm-hmm.
Mais ils sont dans le bureau. Comme.
D'accord.
Ils se travaillent.
Et tu parles à tes voisins? Il y a des échanges?
Pas beaucoup, oui, parfois. Oui. Parfois, quand je sors, quand je vois quelqu'un, je parle, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup. Et Peggy, est-ce que tu peux nous dire où tu habites? Enfin, pas l'adresse, mais oui, approche-toi bien du micro.
Oui, moi aussi, je suis dans un foyer, dans un CADA, qui veut dire Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est aussi un studio. Oui, comme Dipu l'a dit, ben, ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est que c'est un studio, c'est individuel. Dans d'autres foyers, les douches, les cuisines, tout ça, là, c'est en commun. Ça se partage, or que là où je suis, c'est un studio avec une petite cuisine et puis la douche à côté. Donc voilà.
Tout est dans la chambre.
Oui, dans la chambre. Et donc, quand tu rentres dans ta chambre, tu as tout. Quand tu sors, c'est... Mais sinon, on n'a pas de partie commune parce que c'est apparemment le plus petit CADA de Lyon.
Mm-hmm.
Il
n'y
a pas de partie commune, mais bon, on a des assistantes. Ils ont leur bureau juste derrière l'appartement. Et donc, voilà, ils sont très gentils.
Mais ce que tu appelles un studio, tu peux nous dire en surface, la surface de ta chambre?
Je dirais que ça pourrait faire peut-être 10 mètres sur 20, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas très très grand, oui. Ce n'est pas très très grand.
Moi, j'aurais plutôt dit 9 mètres carrés maximum. Nadette, vous aviez l'air effectivement surprise quand Peggy a prononcé le mot de studio.
Tu as été surprise? Oui, parce qu'en général, dans les CADA, c'est juste une chambre, comme vous l'avez dit, c'est avec les parties communes.
Oui.
Et les chambres, elles font 7 mètres carrés à peu près.
Enfin, toi, tu as une petite fille, alors peut-être que tu es un tout petit peu plus grand. Mais
oui, c'est un tout petit peu.
On a eu l'honneur d'être invité chez Clémence, dans un CADA à Villefranche. J'avoue que une fois qu'on est assis sur le lit, on regarde les cafards passer et puis c'est tout. On ne peut pas bouger. Est-ce qu'il y a des cafards dans ton CADA?
Il y a des punaises dans certaines chambres, oui. Mais bon, pas dans ma chambre en tout cas, parce que moi je mets la propreté partout, oui. Donc voilà, il y en a, mais bon, il y a les assistantes, oui, qui font ce travail-là. Ils amènent les professionnels pour nettoyer un peu, pour faire partir tous ces insectes, oui.
Jane, est-ce que ça t'étonne quand on parle des cadas dans mon cafard? Non, des cafards dans mon cada, qui sera le titre de notre...
Les punaises de lit, c'est pas... Ça, c'est dans tous les centres où il y a beaucoup de monde, dans les foyers de jeunes travailleurs, il y en a de partout aussi. Mais bon, ils font en sorte de les faire partir, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chambres et du coup, généralement, ça passe de porte en porte.
Et ce sont des locaux qui datent de quelle époque? C'est récent, c'est neuf?
Oui, enfin, c'est pas très très ancien. Il y a des fois, il y a des parties qui ont été refaites, mais bon, c'est vrai que généralement les bâtiments sont vieux à la base.
Oui, c'est tout comme chez moi, c'est un vieux bâtiment parce que ça fait 6 étages, mais il n'y a pas d'ascenseur, donc je me dis que c'est un vieux bâtiment qui a été refait, oui. Donc l'intérieur, les sanitaires, c'est propre.
Très bien, eh bien, j'imagine que dans vos chambres, vous mettez de la musique de temps en temps, comme celle de Bonga, puisque nous devions recevoir Germana. Mais on ne désespère pas. Et pour attirer Germana dans la prochaine émission, voici Bonga, musicien angolais.
A chegar de mansinho, fazendo beicinho pra gente lidar. Com as mãos a banar, ai ai, com as mãos a banar. Ai ai, com as mãos a banar. Ai ai, com as mãos a banar. Ai ai. Quem
Quem me dá também lhe dou. Quem não me dá também não lhe dou. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Lua cheia me inspira no canto de mãos estendidas. Vou agradecer com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Camundongo já não bate palmas, desliza num dongo e não pode remar. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Um calua chegar de mansinho, fazendo beicinho pra gente lidar. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Quem me dá também lhe dou. Quem não me dá também não lhe dou. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Lua cheia me inspira no canto de mãos estendidas. Vou agradecer com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Camundongo já não bate palmas, desliza no dongo e não pode remar. Com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai, com as mãos a abanar. Ai ai. Nas palmas das palmas das palmeiras. Ai ué.
C'est bien parce que, ben zut alors, ce chanteur Bonga a la voix éraillée comme nous, il est à l'unisson. La semaine prochaine, c'est une émission qu'il ne faut pas rater, car eh bien, c'est la filière bengalaise qui va officier. Dipou, qu'est-ce qu'il y a au programme la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va faire une émission spéciale sur Long International Long Matin Naljo. C'est le 21 février, mais on va faire à 19 février.
Voilà, à l'antenne. Et la fête de la langue maternelle, apparemment, c'est quelque chose de politique, de très important. Et Nadette, grâce à toi, je crois d'ailleurs, Richard a pu la fêter l'an dernier. Et qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, l'an dernier, on avait de la chance, parce que c'est pratiquement tombé un dimanche. Et donc, on avait Jean, qui est déjà venu ici, avait construit en bois un petit monument qui rappelle l'énorme monument de Dakar. Chacun était venu déposer une fleur et tous les participants, donc tous les amis du JRS, avaient parlé dans leur langue maternelle, soit en disant une phrase, soit en disant un poème, soit une chanson. C'était extrêmement chaleureux et émouvant. Moi, j'avoue que c'était émouvant, je ne connaissais pas cette fête, qui correspond à quelque chose de grave que Dipou peut t'expliquer.
Oui, et tu étais là, tu étais d'accord, mais tu déjà vois là cet monument de la Dakar.
À Dakar, oui.
Oui.
Et oui, parce que tu es déjà allé au Bangladesh, Nadette. Et il y a un truc qui t'avait marqué au Bangladesh. S'il y avait qu'une seule chose.
Alors, s'il y avait qu'une seule chose qui m'a marqué, c'est que le Bangladesh, c'est une grande fourmilière. Il n'y a pas un pouce de terrain où il n'y ait personne dessus, et les gens ne cessent de travailler. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. C'est un beau pays, plein d'eau, avec des gens hyper courageux.
Donc, quelques-uns seront au micro la semaine prochaine pour la fête de la langue maternelle et nous évoquerons également ces travailleurs sans relâche qui cousent nos jeans à nous et qui sont exploités d'une manière incroyable. Ce sera la rubrique Fashion de Léna avec Richard dans toutes les rubriques vu qu'il vient une fois tous les six mois. On en profite. Bye bye, merci à tous.
À la semaine prochaine.